Séquence pour comprendre et débattre proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire et membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Aujourd'hui, cinquième séquence sur la thématique de la Constitution européenne, une séquence diffusée chaque mardi dans la tranche d'information locale de Radio PFM à 7h30, 12h30 et 18h30. Donc cette séquence a pour but d'informer et d'ouvrir le débat avec les auditeurs. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à soumettre vos arguments par téléphone en laissant un message au 03 21 50 99 99 ou bien par email à pfm@nordnet.fr. Alors Paul Masson, lors de la séquence précédente, on a parlé territoire et compétences. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement la conclusion de cette séquence ?
Oui. En gros, les compétences de l'Europe sont la mise en place d'un marché hautement compétitif, où la concurrence est libre et non faussée. C'est article 1.3.
Alors aujourd'hui, autre axe de lecture, on va parler des politiques de l'Union européenne dans ce traité constitutionnel. Alors quelle partie dans ce traité parle des politiques ?
C'est dans la partie 3 que sont présentées les politiques. Un petit retour arrière sur la manière dont ça a été fabriqué. Autant j'ai insisté la dernière fois sur les objectifs qui avaient été faits au niveau du consensus entre les différentes forces politiques, la partie 3 n'a pas été faite par la Convention. Elle a été faite par les techniciens de Bruxelles, à qui on a demandé de mettre en cohérence les traités antérieurs et de dégager les politiques qui avaient été mises en œuvre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'Europe qu'on nous demande de faire, qu'on nous demande de constitutionnaliser, c'est la continuation de l'Europe qui est en train de se faire. Il n'y a pas de changement de politique au niveau de l'Europe. On va trouver ça, non, dans la troisième partie. On va essayer d'y regarder. Cette troisième partie, c'est la partie la plus importante, puisqu'elle fait pratiquement 300 articles sur 448. C'est la partie la plus importante. On va essayer de trouver quelle est sa logique. Et on peut dire que les politiques de l'Europe sont la mise en œuvre de l'article 1.4, libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, qui sont garantis par l'Union. Si l'Union veut garantir cette libre circulation, il va falloir mettre en place des politiques qui lui permettent de le garantir. Ces garanties se mettent en place dans le respect, je cite l'article 3.177, dans le respect d'un principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Cet aspect marché ouvert où la concurrence est libre, on va le retrouver très régulièrement marqué dans le texte concernant la politique de l'emploi, concernant la politique économique. On va retrouver très très régulièrement cet axe, c'est la base de la politique de l'Europe. Je vais le décliner. Libre circulation des personnes. À l'intérieur de l'Europe, je cite 3.133.2, toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite. Première chose, les personnes, les travailleurs, concernant l'emploi, rémunération, les personnes, c'est des travailleurs, et leur libre circulation doit pouvoir se faire. On va interdire que des législations puissent limiter l'effet de cette circulation. Autre chose, pour la liberté la libre circulation des personnes, dans le domaine de l'emploi, la loi ou la loi cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Il faut que la concurrence entre les travailleurs puisse agir librement. Les États n'ont pas le droit de mettre en place des lois qui s'appliqueraient à toute l'Europe, qui garantissent pour tous les citoyens d'Europe les mêmes conditions de rémunération, d'emploi ou de conditions de travail. On ne peut pas harmoniser les conditions de travail. C'est interdit par la Constitution. Et pour ce qui est de la main-d'œuvre, les objectifs qui sont annoncés, promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, afin d'atteindre les objectifs énoncés dans le 1.3, marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. Voilà pour ce qui est de la libre circulation des personnes. Par rapport à ça, que nous dit le texte sur les droits des travailleurs et de la protection sociale? Alors, je prends l'article 291. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail, a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que une période annuelle de congés payés. Ces droits sont affirmés. Par contre, le nombre de jours, le nombre d'heures ne sont pas indiqués.
Donc là, on a parlé de la libre circulation des personnes, bon, des travailleurs surtout. Qu'en est-il de la libre circulation des services et des capitaux?
Alors, peut-être pour la libre circulation des services. La libre circulation des services, on était particulièrement intéressé et ça a fait objet de négociations relativement hardes concernant les services publics. Parce que la libre circulation des services, ça repose le problème des services publics. Je vais reprendre un petit peu les articles qui concernent ça. L'article 296, l'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général conformément à la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une première affirmation, c'est que les services d'intérêt économique général, c'est une autre manière de parler des services publics, qui est un petit peu différente, mais enfin c'est le terme qui est utilisé dans la Constitution, est reconnu par la Constitution conformément à la Constitution. Ça veut dire qu'ils sont reconnus en tenant compte de l'ensemble des articles de la Constitution. Je reprends un autre article, 367, qui parle de ça. Sauf dérogations prévues dans la Constitution, donc il peut y avoir des dérogations, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Deuxième chose qui nous est dit, c'est que les États n'ont pas le droit d'accorder des aides, sauf dérogation. On est dans la logique du marché. Si on veut que le marché fonctionne, il ne faut pas que l'État intervienne. Mais le texte de la Constitution peut considérer que par rapport aux services publics, il peut y avoir des exceptions. Donc on va retrouver ça. Je reprends le 366 qui explique un peu plus. Les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, chez nous les services publics, ou présentant un caractère de monopole fiscal, je pense que c'est des grandes entreprises comme la SNCF, sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence. C'est affirmé clairement que la règle de la concurrence s'applique à toutes les entreprises, y compris aux services publics. Par contre, ce qui est indiqué, c'est dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement de la mission qui leur a été impartie. On peut admettre que pour des services publics qui ont une mission particulière, il peut y avoir dérogation à la règle de la libre concurrence. Dans ce cas-là, c'est la Commission veille à l'application du présent article, ça j'en suis à l'article 366, c'est-à-dire que si un État veut faire valoir que pour tel ou tel service, la règle de la concurrence ne s'applique pas, ça va être les commissaires de Bruxelles qui vont donner l'autorisation. Vous saisissez, on y reviendra dans la troisième partie, les États qui voudront déroger aux règles de la concurrence vont demander l'autorisation à la Commission de Bruxelles. Mais la règle, c'est la règle de la concurrence qui est la règle de base. Je cite aussi article 3, c'est vraiment insisté dans le texte, les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire. Les services publics sont acceptés comme dérogation à la règle générale et il est demandé aux États de procéder à leur libéralisation au-delà de ce que la loi les contraint de faire. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial. L'article 355, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis un certain temps. Pour que la concurrence puisse s'exercer, la Poste a dû être obligée de revoir son statut et pour que les entreprises privées puissent venir éventuellement faire du bénéfice sur les transports postaux, la Poste a dû renoncer à avoir le monopole. Actuellement, on en est, elle n'a plus de monopole sur les lettres au-dessus de 50 grammes. On est dans la logique de ce marché qui doit être le moins perturbé possible. Les services publics, dans ce cadre-là, peuvent être considérés comme une exception, mais c'est une exception et qui doit essayer d'être limitée au maximum. À la limite, les services publics sont un handicap à la libre circulation. Il faut faire en sorte que cet handicap soit le moins perturbant possible. Par rapport à la sécurité sociale, on a eu une réforme de la sécurité sociale. On a eu une réforme des retraites qui viennent d'avoir lieu en France. Il y a un lien très direct avec ce traité. Je vous lis l'article 2.94. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, l'accident du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. C'est-à-dire concernant la sécurité sociale, concernant la retraite ou les services sociaux, l'Union reconnaît que ça a sa place et que les législations et pratiques nationales ont leur place, mais elle dit qu'il faut que ça reste selon les règles établies par le droit de l'Union. Et concernant ces secteurs-là, les restrictions, le 3.144, les restrictions à la liberté de prestation de services à l'intérieur de l'Union sont interdites. Une entreprise dans le domaine de la santé, une entreprise, je pense, une entreprise d'assurance concernant la santé, doit pouvoir avoir la possibilité de faire des prestations dans le domaine de la santé. Le principe de sécurité sociale pour tout le monde en France est un handicap à la libre circulation des services. Les grandes entreprises d'assurance sont handicapées dans la mesure où on a une législation qui fait que la sécurité sociale est pensée pour tout le monde. La réforme de la sécurité sociale, la réforme des retraites a permis à ce que les grandes assurances puissent venir s'installer dans le domaine de la santé. Depuis que la réforme de la sécurité sociale est passée, on a régulièrement de la publicité pour des entreprises qui viennent proposer des services de santé et proposer des retraites par capitalisation, mais là, c'est la libre circulation des capitaux qu'on va voir. Concernant la libre circulation des capitaux, c'est aussi une de ces garanties qui est faite. Hein, je vous l'ai dit, la Constitution garantit la libre circulation des personnes, on a vu, pour ce qui est des travailleurs, la libre circulation des services et des marchandises, on vient de voir ce que ça veut dire. Libre circulation des capitaux, que nous dit la Constitution? Les restrictions tant au mouvement de capitaux qu'au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. On n'a pas le droit de restreindre les mouvements de capitaux. Autrement dit, la taxe sur les capitaux que notre président, à l'échelle internationale, disait qu'il faudrait mettre en place, la Constitution l'interdit en Europe. La taxe Tobin n'est pas possible en Europe, parce que ça serait une restriction au mouvement de capitaux. Et on en arrive dans la politique qui a annoncé au 3.157.2, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux. Alors on en est que la Constitution dit aux élus, le Parlement européen, vous devez favoriser la libre circulation des capitaux. Les gens qu'on élit devront exiger la libre circulation des capitaux, devront travailler à la libre circulation des capitaux. Vous voyez que vous pouvez élire n'importe quel député, le texte de la Constitution dit « c'est votre boulot de député de défendre cette politique-là ». La Constitution conduit à conduire telle politique et interdit une politique qui dirait « la libre circulation des capitaux peut être un handicap dans notre vision de la politique, et on n'a pas le droit de le faire ». Cet aspect-là est relativement important, puisque concernant la criminalité financière, l'argent sale, qu'on pourrait dire, dans le domaine de la prévention du crime, les mesures prises ne peuvent pas comporter de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. C'est l'article 3.272. C'est-à-dire, si on veut lutter contre l'argent sale, eh ben, on n'aura pas le droit de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires. On ne peut pas faire une législation qui permette, de, sur l'ensemble des pays de l'Union, d'avoir une législation commune pour la prévention du crime.
Donc on a parlé de liberté de circulation. Qu'en est-il de la liberté d'établissement ?
Voilà. Donc on a, avec la liberté d'établissement, on arrive à, à la dernière garantie qui est proposée par la Constitution, la liberté d'établissement. Alors concernant la liberté d'établissement, on a le Parlement, le Conseil et la Commission s'assurent que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. N'importe quelle entreprise doit pouvoir s'installer sur n'importe quel endroit du territoire et il ne faut pas que les États puissent, en favorisant tel ou tel service ou telle chose, empêchent cette liberté d'établissement. Et on va demander aux élus, le Parlement, et au Conseil de mettre en œuvre cette politique. C'est-à-dire que la Constitution indique à nos élus la politique qu'ils doivent conduire. On a constitutionnalisé une ligne politique. Autre article, les restrictions à la liberté d'établissement, de création d'agences, de succursales, de filiales, des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. On ne peut pas empêcher une entreprise d'un autre État de venir s'installer sur le territoire. C'est explicite par rapport à ça. Alors, donc, le marché est libre, non faussé. Les garanties qui sont annoncées dans l'article 1.3, libre circulation des personnes, libre circulation des services et des marchandises, libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement qui sont garanties dans le 1.4 plutôt, sont déclinées dans la troisième partie en disant voilà comment ça se mettra en œuvre, voilà ce qu'on se met en œuvre. Et alors, par rapport à ça, on pourrait dire, bon, s'il y a eu cette grande liberté d'établissement, quelles protections vont être données pour ce qui est de la politique économique, sociale ? Alors, ici, on pourrait dire pour éviter que cette loi du marché aille dans tous les sens et finalement casse toute législation autre, que nous dit la Constitution ? J'ai repris deux articles qu'on va retrouver très très régulièrement dans la partie 3. C'est à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires, je vous avais dit concernant la criminalité financière, mais pour ce qui est des politiques de l'emploi, c'est l'article 3.207, on ne peut pas harmoniser les dispositions législatives et réglementaires. Pour ce qui est de la politique sociale, on ne peut pas harmoniser les dispositions législatives et réglementaires. C'est le 3.210. Deuxième chose qu'on va retrouver, ça va être le Conseil statue à l'unanimité. Pour faire les lois en Europe, on va avoir deux cas de figure. On va avoir la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité, c'est dans la mesure où, pour prendre une loi, tous les États doivent être d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord pour qu'on ne puisse pas faire la loi. Et il y a certains domaines où on va utiliser la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est il suffit qu'il y ait 55% des États membres qui soient d'accord et que ces 55% des États représentent 65% de la population de l'Union. C'est ça qu'on va appeler la majorité qualifiée. Donc, pour ce qui est des lois du commerce, on peut dire que le plus souvent, ça va être la majorité qualifiée qui va être mise en place. Pour ce qui est, au contraire, de tout ce qui est les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques concernant l'environnement, la fraude fiscale, les mouvements de capitaux et la coopération judiciaire, le Conseil doit statuer à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un pays qui dise « cette loi sociale, je suis contre » pour qu'on ne puisse pas l'appliquer. Cette loi qui veut favoriser l'environnement, je suis contre, pour qu'on ne puisse pas la mettre en œuvre. Vous saisissez qu'on va avoir au niveau législatif, globalement, la majorité qualifiée, il suffit qu'il y ait une majorité qui se dégage pour qu'on puisse faire du commerce, même s'il y a certains États qui veulent s'y opposer. Par contre, toutes les fois qu'on veut faire une législation sociale, toutes les fois qu'on veut faire une législation qui concerne l'environnement, il y a nécessité qu'on ait l'unanimité. Et au niveau fiscal, un pays peut empêcher une loi qui harmonisera la fiscalité.
C'est la fin de cette cinquième séquence pour comprendre et débattre sur la thématique de la Constitution européenne. Je rappelle aux auditeurs que leurs questions sont les bienvenues. Lors d'une séquence à venir, nous essaierons de répondre à ces questions et ou ces remarques. Vous pouvez donc laisser vos messages, y compris sur le répondeur, au 03 21 50 99 99 ou par email à l'adresse suivante pfm@nordnet.fr. Paul Masson, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
À la semaine prochaine.